Lundi 22 juillet. Accompagner les enfants à l'école le lendemain lui semble irréel. L'air est frais, vif, elle a passé une veste par-dessus sa tenue d'été. Les rues regorgent d'élèves en uniforme bleu ciel et marine. Alix les observe intensément. Aucun de leurs pères n'a disparu au cours du week-end. 10 minutes après être rentrée à la maison, elle remarque qu'elle a raté un appel d'un contact inconnu. Elle tape le numéro sur Internet et sent une décharge nerveuse la traverser quand elle voit que c'est celui d'un hôtel à côté de Tottenham Court Road, puis une immense vague de soulagement la submerge. Elle imagine Nathan se réveiller après la plus grosse cuite de sa vie, frotter ses yeux, regarder l'heure, comprendre qu'il a disparu depuis 2 jours, chercher son portable qui n'a plus de batterie et décrocher le téléphone de l'hôtel pour l'appeler. Tout redevient enfin logique. Elle rappelle le numéro immédiatement, les mains tremblantes. « Bonjour !» s'écrie-t-elle quand une voix de jeune femme répond. « Je crois que mon mari a essayé de m'appeler de ce numéro. Nathan Summer, est-ce qu'il a pris une chambre chez vous ?» S'ensuit un court silence gêné. « Oh, bonjour, Alix Summer ?»« Oui, comment connaissez-vous mon nom ?»« En fait, c'est moi qui vous ai appelé, Madame Summer. » « Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas quoi faire. Monsieur Summer a pris une chambre ce week-end et malheureusement, comme il n'a pas rendu la clé ce matin, nous avons utilisé le passe-partout pour entrer dans la chambre et nous avons découvert de sérieuses dégradations. Nous avons trouvé sa carte de visite dans la chambre et j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois sur son portable, mais je tombe toujours sur le répondeur. Donc j'ai appelé son bureau pour voir si je pouvais le trouver là. Mais ils m'ont dit qu'il n'était pas allé au travail aujourd'hui. » Et ils m'ont donné votre numéro. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Alix se fige, tandis que des scénarios fous se génèrent dans sa tête. « Non, bien sûr que non », finit-elle par dire. « Nous allons devoir facturer à Monsieur Summer les dégâts dans la chambre. Pardon, mais est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'expliquer ce qu'il s'est passé, en reprenant du début, car je ne comprends pas bien. » « Oh oui, bien sûr !» s'écrie la jeune femme d'une voix pleine d'entrain. « Monsieur Summer a pris une chambre samedi soir, tard. Sa compagne nous a dit qu'elle avait payé en ligne pour 2 nuits. »« Compagne ? » ?»« Oui, la personne avec qui il était. »« Qui s'appelait ?»« Je n'en sais rien, malheureusement. Je ne travaillais pas samedi soir. La chambre avait été prépayée pour 2 nuits. » Monsieur Summer a dû partir dimanche sans rendre sa clé car personne ne l'a vu sortir et nous n'avons pas enregistré son départ. Quand nous sommes entrés dans la chambre ce matin pour lui demander de la rendre, elle était vide. Aucun signe de Monsieur Summer ni de sa compagne. Et la chambre, j'en ai bien peur, a été dévastée.
Dévastée ?
Oui, et j'en suis désolée, mais il va nous falloir prélever une certaine somme pour couvrir les frais de réparation. Puisque la carte de sa compagne ne passe pas et que nous ne parvenons pas à contacter Monsieur Summer, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous aider à trouver une solution à cette situation.
La chambre, celle de mon mari, est-ce qu'elle a déjà été rangée, nettoyée ?
Non, nous attendons que la direction contacte une équipe de ménage spécialisée. Nous n'avons touché à rien.
D'accord.
Bien, j'aimerais la voir, s'il vous plaît. Mon mari n'est pas rentré à la maison, voyez-vous. Et il a disparu. Et il y a peut-être quelque chose dans cette chambre qui pourrait expliquer où il se trouve, où il est parti.
S'il vous plaît.
Je peux être là dans 30 minutes.
Il y a un court silence pendant que la jeune femme demande l'accord de son supérieur.
Très bien, nous vous attendons. À tout à l'heure.
La réceptionniste tend à Alix la clé.
C'est la 18, au premier étage. L'escalier est au fond du couloir.
Alix s'enfonce dans l'hôtel, monte un escalier étroit. La chambre 18 est la 2e porte sur la gauche. Elle pose le badge sous la poignée qui cliquette. Les rideaux sont tirés. Il lui faut un moment pour que ses yeux s'habituent à la pénombre et qu'elle trouve l'endroit où insérer le badge pour activer l'électricité. Puis la scène s'illumine, choquante. La chambre est sans dessus-dessous. Les draps ont été arrachés du lit, laissant le matelas à nu. La couette traîne à moitié sur le sol. Le minibar a été dévalisé, il y a des cadavres de bouteilles partout. Les restes d'un repas à McDonald's sont éparpillés par terre, des papiers d'emballage tachés de ketchup et des sachets gras de frites froides.
Alix avance précautionneusement dans ce chaos vers la salle de bain. Elle y trouve des serviettes mouillées sur le carrelage, des canettes vides dans l'évier, et, ce qui lui soulève violemment le cœur, des sous-vêtements féminins. Un string de dentelle bas de gamme laissé à traîner sur le sol, des cheveux blonds bouclés dans l'évier, une trace de gloss teinté sur le bord d'un verre, et cette odeur, l'odeur indéniable d'une femme qui flotte dans l'air. Alix se laisse tomber sur le rebord de la baignoire et regarde intensément autour d'elle. Elle se relève doucement et jette un coup d'œil dans la poubelle à la recherche d'autres indices. De retour dans la chambre, elle commence à voir dans cette scène un peu plus qu'une rencontre sexuelle en état d'ébriété. Un cadre est de travers sur le mur, la vitre cassée. Une lampe de bureau gît au sol. La table de chevet est tournée à un angle de 90 degrés par rapport au mur. Et là, découvre-t-elle en se baissant de plus en plus vers le parquet, il y a une petite trace de ce qu'elle a d'abord pris pour de la sauce barbecue peut-être ou du ketchup, mais qui, comprend-elle en l'effaçant du doigt, est du sang. Elle fait la grimace en comprenant ce dont il s'agit et se relève si vite que sa tête tourne. Elle pivote sur elle-même dans l'espoir de trouver dans les détails de la chambre des réponses aux centaines de questions qui inondent son cerveau. Mais il n'y a rien. Une bagarre, une fille, de la nourriture, de l'alcool, un string abandonné. Alix s'assied sur le bord du lit défait et sort son téléphone. Elle appelle Nathan et tombe sur le répondeur. Elle redescend à la réception et en ouvrant la bouche pour s'adresser à la jeune femme, elle se rend compte qu'elle pleure.
« S'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai besoin de voir les vidéos. Celles de vos caméras de surveillance. Mon mari a disparu, je ne sais pas où il est, et je ne peux plus supporter cette situation. Je ne peux plus supporter de ne pas savoir. S'il vous plaît. »
La réceptionniste lui adresse un sourire nerveux.
« Je vais demander à ma supérieure. Un instant, s'il vous plaît. »
Un moment plus tard, une belle femme aux cheveux teints en noir sort du bureau derrière la réception. Son badge indique qu'elle s'appelle Astrid Pagano et des tatouages noirs imbriqués recouvrent ses avant-bras.
« Venez avec moi, madame »,
lui intime-t-elle avec un léger accent. Elle lui fait signe d'entrer dans le bureau et Alix la suit. C'est une petite pièce et elle se serre coude à coude face au moniteur où sont retransmises les vidéos de télésurveillance.
Je suis désolée que vous vous retrouviez dans une situation si difficile. Voyons voir si nous pouvons vous apporter quelques éléments de réponse.
Au bout de quelques minutes, elle trouve ce qu'elle cherche. La vidéo est datée de dimanche dernier à 1h41 du matin. D'abord, Alix voit Nathan approcher de l'hôtel avec une jolie blonde. Certainement Kathleen, la fille dont Giovanni lui a parlé. Elle a l'air plus âgée que ce qu'Alix avait imaginé. Elle a une tignasse de boucles blondes attachées en queue de cheval et un visage délicat. Elle porte un jean blanc, des baskets blanches, un dos nu ample, de gros anneaux dorés aux oreilles et ressemble à une déesse. Nathan, qui ferme la marche, a l'air ridicule en comparaison. Il arrive à peine à mettre un pied devant l'autre et doit s'appuyer contre le mur pour éviter de tomber quand ils approchent de la porte. La vidéo se poursuit sur un autre écran, et là, Alix voit Nathan tituber derrière Kathleen pendant qu'elle se présente à la réception. Elle a déjà vu son mari ivre un nombre incalculable de fois, mais jamais à ce point. Puis ils sortent du champ, s'avançant vers l'escalier sombre au fond de l'hôtel. Astrid passe en accéléré les 2 heures qui suivent, puis s'arrête à nouveau vers 3 heures. Nathan est là. Il est tout habillé et titube toujours. Il se cogne à la console en face de la réception, s'arrête un moment, puis sort son téléphone de sa poche. Il allume l'écran et fronce les sourcils, se balançant légèrement d'un pied sur l'autre, tandis qu'il fait un effort visible pour lire son écran. Puis il range le portable dans sa poche et s'approche de la porte d'entrée. Alix le suit sur l'autre écran. Et le voilà, dans la rue noire, illuminé brièvement par un lampadaire, puis replongeant dans l'ombre.
Il est soudain éclairé par les phares d'une voiture en approche et se retourne, manquant de perdre l'équilibre. Il se protège les yeux brièvement de la main, puis sourit et fait un geste. La voiture s'arrête un peu avant l'hôtel, au bord du champ de la caméra. Nathan zigzague sur le trottoir jusqu'au côté passager de la voiture. Elle le voit tendre le bras vers la portière. Puis il s'interrompt et fixe le conducteur, semble changer d'avis et s'éloigne. Puis se retourne à nouveau vers la voiture, peut-être parce que le conducteur a dit quelque chose. Et un moment plus tard, il s'installe à l'intérieur. Puis la voiture s'éloigne lentement. Et la rue se retrouve à nouveau plongée dans le noir.
Vous reconnaissez cette voiture ?
Alix secoue la tête.
Est-ce que vous pourriez revenir en arrière, s'il vous plaît ? Au moment où elle arrive. Voilà, ici. Faites pause.
Astrid clique sur pause et la plaque d'immatriculation apparaît, parfaitement lisible. Elle lui tend un morceau de papier et un stylo. Alix prend note.
C'est peut-être un Uber ?
Non, répond-elle en secouant la tête. Nathan ne s'installerait jamais à l'avant avec un Uber. Il va toujours à l'arrière. On dirait qu'il s'attendait à connaître le conducteur et que finalement ce n'était pas le cas.
S'il est quand même monté.
Sa voix se brise. Cela n'a aucun sens. Dans quelle voiture s'attendait-il à monter? Qui pensait-il retrouver à 3 heures du matin? Quel message lisait-il sur son portable avant de sortir de l'hôtel? Astrid s'apprête à éteindre la vidéo, mais Alix l'en empêche.
Est-ce que je pourrais la voir partir, elle aussi? La femme, ça ne vous dérange pas?
Non, pas du tout. Et voici Kathleen, quelques secondes plus tard, l'air tranquille et calme, sans aucun signe visible de ce qui a bien pu se passer entre elle et Nathan dans la chambre d'hôtel dévastée. Pas une boucle de travers, son jean toujours d'un blanc immaculé. Quand elle passe devant la réception, Alix distingue néanmoins une griffure d'un rouge intense sur le côté de sa joue. Kathleen se retourne et c'est terminé. Mais Alix ne demande pas à Astrid de faire pause cette fois-ci. Elle ne veut plus la revoir. Elle ne veut pas savoir.
Le nom de la femme qui a fait la réservation, vous le connaissez? Est-ce que c'était Kathleen?
Astrid change de fenêtre et fait apparaître le logiciel des réservations de l'hôtel. Alors, la réservation a été faite via un site tiers plus tôt dans la même journée. Et non, ce n'était pas au nom de Kathleen. Elle s'interrompt et inspire profondément.
Je ne devrais vraiment pas vous dire ça. Je suis sûre que vous en avez conscience. Mais c'est moi la chef aujourd'hui et je comprends que c'est important, donc...
Elle se retourne vers l'écran et clique sur un autre bouton. La réservation a été faite au nom de votre mari, mais payée avec une carte à un autre nom. Le nom sur la carte, reprend-elle en se tournant vers Alix avant de hocher la tête une fois, comme si elle comprenait ce que cela signifie,
est celui de Erin Jade Fair.
Bonsoir, je suis votre jumelle d'anniversaire. Une série originale Netflix.
Kathleen Rand apparaît à l'écran, assise sur le canapé rouge. Elle soupire.
Josie m'a appelée un peu après nos retrouvailles chez Instant Couture, quand je lui avais donné mon numéro parce qu'elle avait peut-être un plan pour moi. En gros, apparemment, il fallait qu'on prenne le mari infidèle de son ami la main dans le sac. Cela faisait des années qu'il couchait à droite, à gauche. Ouais, les mecs, hein. Et apparemment, cette femme refusait de le croire, malgré les preuves. Josie voulait que son amie sache, voie et comprenne ce dont son mari était capable. Je lui ai dit, non, je ne vais pas faire ça, je ne suis pas une escorte, en fait, je suis actrice.
Kathleen rit et secoue la tête.
Elle m'a répondu, je ne te demande pas de coucher avec, il faut juste qu'il te suive jusqu'à la chambre d'hôtel et que tu donnes l'impression d'avoir couché avec lui. Moi, je m'occupe du reste. Oui, évidemment, j'ai pensé que c'était n'importe quoi, complètement fou. Et puis elle a dit, bon, elle a dit qu'elle me paierait 1000 livres. Alors je me suis dit, ok, pourquoi pas? C'était 1000 livres pour une soirée de travail, même pas quelques heures, c'est tout. J'ai dit oui, et j'ai attendu ses instructions.
Le journaliste lui lance hors champ.
C'est-à-dire? Elle m'a demandé de lui faire la conversation sur la terrasse d'un pub pas loin d'Oxford Street. C'était ce week-end irrespirable de juillet, vous vous souvenez? Quand il faisait genre 35 degrés. Je me suis pointée, j'ai commencé à parler avec lui et franchement, c'était un type super sympa. Ses copains aussi. Des amours. Il faisait que me répéter qu'il devait rentrer parce que sa femme avait promis de coucher avec lui et c'est devenu une blague récurrente toute la soirée. Et je me sentais trop mal, en vrai, c'était horrible. Je me disais, bon, je vais faire de mon mieux, mais franchement, je peux pas faire de miracle. Et mes 1000 livres pesaient dans la balance, pour être honnête. Puis je l'ai vu vriller, après ça, je sais pas combien, 5e tequila. J'ai vu ses yeux partir, et il est entré dans un autre monde. Et là, j'ai su qu'elle n'allait pas rentrer coucher avec sa femme. La pauvre. Elle lève les yeux vers le journaliste et sourit tristement. Ouais. Les pauvres. Tous les deux.
Midi. Alix attend devant l'appartement de Pat presque 10 minutes, à sonner encore et encore à sa porte, jusqu'à ce que sa voisine sorte et lui dise qu'elle n'est pas là, qu'elle est partie à l'aéroport de Stansted dimanche matin, qu'elle est en vacances et que, non, elle ne sait absolument pas où. Quelque part en Espagne, peut-être.
Est-ce qu'elle est partie avec sa fille?
Josie?
Oui. Elle s'était installée chez elle, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit.
Je n'ai pas vu Josie avec elle. Ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vue d'ailleurs. Quand Pat est partie dimanche matin, elle était seule. Si je vois sa fille dans le coin, vous voulez que je lui dise que vous la cherchez?
Oui, répond Alix sans conviction. S'il vous plaît.
Alix se rend directement du HLM de Pat à l'appartement de Josie, à Manor Park Road. Elle regarde par les fenêtres, mais ne voit aucun signe de vie. Tout est exactement à la même place que la dernière fois qu'elle est passée. L'ordinateur portable fermé se trouve sur la table brune dans le bow window. Le lit est parfaitement fait. Elle remarque cependant qu'il y a un petit renfoncement sur la gauche de leur immeuble, bloqué par une rangée de poubelles. Elle en déplace deux et se met sur la pointe des pieds pour jeter un coup d'œil par la fenêtre étroite et sale qui se trouve là. Les rideaux sont tirés. Il y a un petit interstice à travers lequel Alix découvre un désordre crasseux. Des piles de vêtements, de cartons et un coin de lit défait, le pied d'un fauteuil de bureau rouge et noir délabré. Cela doit être la chambre d'Erin. Leur enfoncement sent très mauvais. Les poubelles sont pleines et c'est la fin de la canicule. Elle se couvre la bouche de la main et revient sur le trottoir. Elle sonne. Mais elle sait déjà qu'il n'y a personne. Après quelques secondes, elle rentre chez elle. Grâce aux entretiens qu'elle a réalisés avec un grand nombre de femmes au fil des années, Alix a l'avantage de connaître des expertes dans beaucoup de domaines. Elle a déjà profité du fait d'avoir un carnet d'adresses plein par le passé, et elle est maintenant assise devant son ordinateur à la recherche des coordonnées de Joanna Dafoe, la commissaire adjointe de la Metropolitan Police de Londres, qu'elle a interviewée il y a quelques années pour son podcast, et avec laquelle elle partageait l'amour des chats sibériens et l'habitude de toujours manger les Weetabix 4x4. Joanna, je suis désolée, c'est un peu osé de ma part, mais mon mari a disparu. Il est certainement en train de se remettre de la pire cuite de l'histoire quelque part, mais j'ai eu accès à une vidéo de surveillance où on le voit monter en pleine nuit dans une voiture inconnue qui n'a pas l'air d'un taxi et j'ai l'immatriculation. Est-ce que ça vous semble possible de trouver rapidement à qui appartient cette voiture? Quelques heures plus tard, elle va chercher les enfants à l'école. Le soleil brille, il y a une brise légère et l'atmosphère est douce. Ce sont les derniers jours de l'année scolaire. Les grandes vacances commenceront dans 3 jours. Pendant un moment, Alix a l'impression que tout est normal, qu'elle pourrait rentrer et trouver Nathan dans la cuisine, l'attendant l'air penaud. Mais quelques minutes plus tard, elle regarde ses mails et voit que Joanna Dafoe, la commissaire de police, lui a répondu. « Bonjour Alix, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je suis désolée que vous soyez dans une situation si difficile. L'immatriculation indique qu'il s'agit d'une voiture de location. » Réservé par une certaine Erin Jade Fair samedi. J'espère que cela vous aide. Faites de grosses caresses à Sky de ma part. » Alix relit le mail 2-3 fois. Puis elle repousse son ordinateur loin d'elle et inspire bruyamment, les mains plaquées sur la bouche. Ses pensées bondissent et se heurtent violemment les unes aux autres. Puis la clarté se fraye un chemin dans son esprit. Elle prend son téléphone et appelle la police.
« Je sais que ça a l'air un peu fou, » commence-t-elle, « mais je crois que mon mari a été kidnappé. »
« Bonsoir, je suis votre jumelle d'anniversaire. » Une série originale Netflix.
Une femme à l'air sérieux apparaît à l'écran, assise sur un long canapé en cuir devant une grande fenêtre aux rideaux de velours. Elle porte un costume et des bottines à talons. Un bandeau apparaît. Sabrina Albright, OPJ, Metropolitan Police.
Au début, je n'ai pas pris cette affaire au sérieux. Un agent immobilier de Queen's Park, qui a l'habitude de disparaître à la suite de soirées alcoolisées, kidnappé par une femme au foyer dans une voiture de location au beau milieu de la nuit. Je pensais que c'était une sordide affaire de mœurs. Vous voyez, une liaison ou quelque chose comme ça. Les histoires compliquées de personnes compliquées. C'est tout de suite passé au second plan. Mais quelques heures plus tard, on a reçu cet appel.
Un appel ?
Oui. Anonyme, d'une cabine téléphonique de Bristol.
Un enregistrement commence.
Bonjour. J'appelle pour signaler la disparition de quelqu'un. C'est mon ami, Erin Fair, et son père, Walter Fair. Ils habitent au 43A Manor Park Road, à Londres, NW6. Je n'ai plus de leurs nouvelles depuis quelque temps, depuis genre une semaine. Erin a des besoins spécifiques et son père est assez âgé. Ils ne sortent jamais de chez eux, donc je me demandais si quelqu'un pouvait y aller et vérifier qu'ils vont bien. S'il vous plaît, je suis très inquiète.
La caméra se concentre sur l'agent Albright.
On a mis quelques heures à comprendre que les deux signalements étaient liés, qu'il y avait deux mentions du même nom dans la même journée. Erin Fair. Quand on a fait le rapprochement, c'était énorme.
L'agent Albright mime une explosion dans son crâne.
On a envoyé une patrouille à Manor Park Road et... bon. Vous connaissez la suite.
Evening Standard, mardi 23 juillet.
Une découverte macabre a été faite lundi soir dans le quartier de Kilburn. Les agents de la police de Kentish Town se sont rendus dans un appartement au rez-de-chaussée d'une maison située à Manor Park Road à la suite de l'appel anonyme d'une femme depuis Bristol qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles d'une amie. Dans l'incapacité d'établir la présence d'Erin Fair et de son père dans l'appartement et après avoir parlé aux voisins qui ont rapporté avoir entendu des cris et des bruits de lutte tard dans la nuit de vendredi à samedi, 10 jours plus tôt, la police s'est introduite dans le domicile des Fair. Immédiatement, les agents ont été saisis par l'odeur insoutenable qui émanait de la salle de bain et ils ont rapidement découvert les restes en décomposition de Walter Fair, 72 ans, dans la baignoire. Il avait été roué de coups et ses membres étaient entravés. La police a ensuite trouvé sa fille, Erin Fair, 23 ans, ligotée à une chaise d'enfant en bois dans un placard du couloir. Elle avait également reçu des coups et les agents l'ont d'abord crue morte, mais après un rapide examen, elle a pu être dépêchée à l'hôpital où elle se trouve aujourd'hui, en soins intensifs, plongée dans le coma. Selon les voisins, les Fair n'avaient plus été vus depuis quelques jours. Josie Fair, la mère de famille, est introuvable depuis la découverte de lundi soir. La police enquête actuellement sur sa disparition ainsi que sur celle d'un résident du même quartier, Nathan Summer, une connaissance des Fair, qui a été vu pour la dernière fois devant un hôtel du centre de Londres dans la nuit de samedi à dimanche dernier, montant dans une voiture louée avec la carte bancaire d'Erin Fair. La femme de Nathan Summer, la célèbre créatrice de podcast Alix Summer, enregistrait au moment du drame un podcast avec Josie Fair. Cette dernière logeait chez eux depuis une semaine quand Nathan Summer a disparu. Elle prétendait être victime de violences de la part de son mari. Les voisins interrogés disent que la famille Fair était très renfermée et habituellement très discrète.